Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence des résultats du premier semestre 2013 du groupe Albioma, en présence de Jacques Pétry, président directeur général, et Julien Gauthier, directeur administratif et financier. Pour votre information, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. À présent, je voudrais donner la parole à Monsieur Jacques Pétry. C'est à vous.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis donc Jacques Pétry, président directeur général d'Albioma, accompagné de Julien Gauthier, directeur administratif et financier. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour vous présenter les résultats du premier semestre qui, vous le verrez, sont bons. À l'issue de notre présentation, nous serons très heureux de répondre à vos questions. Les événements du premier semestre les plus importants sont d'abord une bonne performance opérationnelle de nos exploitations. D'autre part, vous verrez que nous avons géré de façon dynamique et active nos contrats EDF. D'autre part, nous ferons un point sur les projets de développement et de croissance, et en particulier, vous constaterez que tous les projets qui sont aujourd'hui en train de progresser sont des projets 100% biomasse. Nous ferons un point sur le renforcement de nos relations avec nos actionnaires. Ensuite, Julien vous présentera les résultats financiers et nous conclurons et vous donnerons les objectifs pour 2013 et 2016. Et nous répondrons ensuite à vos questions. Regardons les événements importants du premier semestre. Certains sont des événements d'ailleurs qui ont fait l'objet de communiqués que vous avez reçus au fur et à mesure du déroulement du semestre. Bonne performance opérationnelle. Premier point, qui est notre indicateur de performance le plus important et celui auquel vous êtes maintenant habitué, il s'agit de la disponibilité de nos activités thermiques. Cette disponibilité est bonne puisqu'elle est en ligne avec celle de l'an dernier à 89,5%, donc un niveau comparable à celui de l'an dernier. Vous vous rappelez que l'an dernier, nous avons fait une très bonne année en matière de disponibilité. Ce taux de disponibilité correspond au fait que, comme c'est le cas à chaque premier semestre, nous avons fait nos arrêts programmés d'usine à La Réunion d'une part, Caraïbes Énergie en Guadeloupe d'autre part. D'autre part, nous avons bénéficié d'un fort taux d'appel de cette centrale de pointe, turbine à combustion CCG en Martinique, de 37%. Point important, nous avons bénéficié au premier semestre d'un bon climat social. Nous poursuivons le dialogue avec les partenaires sociaux et nous sommes heureux de constater que depuis 18 mois, nous avons eu un équilibre social très satisfaisant. Nous maintenons pour l'année les objectifs habituels, qui sont des objectifs de disponibilité dans la fourchette 90-92% et qui se répartissent en 6 à 7% liés aux arrêts programmés, qui sont essentiellement programmés au premier semestre, et les arrêts fortuits. Je voudrais aussi vous signaler le fait que nous avons engagé un travail substantiel d'optimisation de nos coûts d'exploitation, à la fois travail sur les achats, sur la maintenance pour optimiser les coûts de maintenance et d'autre part sur la formation. La performance des activités solaires est forte, comme c'était déjà le cas l'an dernier. Nous avons, comme vous le savez, des parcs solaires qui sont pour l'essentiel installés dans les départements d'outre-mer français. Cette puissance installée d'environ 70 MW performe très bien sur l'ensemble de l'outre-mer. Nous avons quelques installations solaires en France continentale et dans le sud de l'Europe qui ont souffert du faible ensoleillement et du mauvais hiver que nous avons connu, mais ceci a un impact marginal sur l'ensemble. Regardons maintenant les éléments de gestion de nos contrats EDF. Vous savez que ces contrats EDF sont des contrats très importants, structurants sur notre patrimoine. Nous avons pour tous les contrats thermiques des durées d'environ 30 à 35 ans. avec, vous vous en souvenez, d'une part une rémunération fixe, la prime fixe, qui couvre l'ensemble des frais fixes, masse salariale, service de la dette, rémunération du capital, et d'autre part des prix proportionnels couvrant les frais variables. Nous n'avons pas eu de baisse de prime fixe en 2012 et 2013, et vous vous rappelez que ces primes fixes baissent lorsque le service de la dette baisse à l'occasion de la renégociation du financement de tel ou tel des actifs. Nous avons, pour mémoire, une baisse de prime fixe prévue dans les contrats depuis l'origine pour CTM en 2014, pour Bois Rouge à La Réunion en 2018. Et donc nous avons ces contrats qui sont très rémunérateurs et très structurés autour de cette prime fixe et du prix variable. Nous avons des indexations qui sont intégrées dans les contrats et nous avons aussi des clauses importantes de protection, de sauvegarde de l'équilibre économique de nos contrats et dans le cas de force majeure, de protection face à des cas de force majeure. Depuis 2 ans, avec l'ensemble de la direction générale, nous avons engagé un effort lourd de gestion active de ces contrats pour faire valoir toutes les clauses d'indexation et éventuellement de protection face à des déséquilibres économiques ou des modifications de l'équilibre économique ou des cas de force majeure. Ces activations des clauses de protection interviennent lorsqu'il y a des coûts significatifs qui sont constatés dans nos comptes et au bout d'un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes en mesure de présenter à EDF une demande de réajustement de nos tarifs. Et ceci se traduit donc avec un éventuel décalage dans le temps. Et c'est ce que nous avons constaté depuis maintenant 18 mois, avec des succès dont nous nous réjouissons sur la négociation de nos tarifs. D'une part, en 2012, nous avions eu une petite compensation tarifaire et rétroactive sur nos sites de biomasse thermique. Et en 2013, et de façon très substantielle, nous avons eu d'une part la satisfaction de signer un avenant pour ce qui concerne CTM en Guadeloupe, avec des éléments liés aux évolutions réglementaires, environnementales, sociales et fiscales, et d'autre part, les conséquences sur le crédit bail fiscal de la fin de l'abattement du tiers. Ceci s'est traduit à la fois par une compensation rétroactive sur 3 ans, et d'autre part, sur des ajustements à la hausse à partir de 2013. De la même façon, à La Réunion, et nous l'avons annoncé en juin 2013, nous avons pu arriver à un accord avec EDF pour un avenant pour l'usine de CTG et l'usine de CTBR qui, à nouveau, tiennent compte de circonstances nouvelles liées aux réglementations environnementales, fiscales et sociales et qui se traduisent à nouveau par des compensations rétroactives sur 3 ans et d'autre part des augmentations récurrentes des tarifs. Et vous verrez tout à l'heure dans les présentations de Julien les chiffres correspondants. Ces trois avenants, ou ces avenants qui ont été signés en 2012 et 2013, sont l'illustration du fait que nos contrats sont très robustes et que nous allons maintenant, de façon régulière, et je ne peux pas vous dire tous les ans, mais de façon régulière, négocier de tels avenants pour intégrer les évolutions de coûts liées à des phénomènes extérieurs, les changements de loi, les changements de normes, et ceci fonctionne et continuera de fonctionner à l'avenir. Il faut aussi noter que dans ces avenants, il y a de la rétroactivité, généralement sur 3 ans, et il y a de la récurrence. Donc, la lecture de nos chiffres doit vous permettre de reconnaître ce qui est rétroactif, donc en une fois, et ce qui est récurrent, et ce qui sera donc reproduit pour les années suivantes. Dans ce cadre-là, je voudrais évoquer maintenant des évolutions d'autres normes qui sont les normes environnementales concernant nos sous-produits de combustion et la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes. Vous vous souviendrez qu'au mois de mars de cette année, quand nous avons présenté les comptes de l'année 2012, nous vous avons présenté nos perspectives d'investissement dans les 10 prochaines années et en particulier nous avons évoqué des investissements liés à l'évolution des normes environnementales. Et ceci viendra en son temps et ceci se déroulera progressivement et nous en reparlerons. Dès à présent, il y a deux éléments nouveaux qui ont un impact dès cette année sur nos coûts d'exploitation et vous les verrez dans les chiffres. Ce sont les éléments d'abord liés à ce qui s'appelle l'arrêté ministériel du 28 octobre 2010 concernant les produits inertes. Nos sous-produits de combustion, qui sont à la fois des mâchefers et des cendres volantes, sont impactés par le durcissement des seuils de réutilisation de ces sous-produits de combustion. Aujourd'hui, cet arrêté ministériel nous amène à devoir stocker ces sous-produits de combustion de façon différente de ce que nous faisions auparavant. Et en accord avec l'administration, nous considérons que pour les trois prochaines années, nous devons appliquer le principe de précaution et mettre ces sous-produits de combustion en centre d'enfouissement technique impliquant des surcoûts logistiques et environnementaux. Et à moyen terme, notre vision, et ceci se déroule en bonne intelligence avec l'administration, c'est de faire reconnaître ces sous-produits de combustion non pas comme des déchets, mais des produits qui pourront être valorisés dans le cadre de nouvelles filières qui pourraient être l'utilisation de ces sous-produits de combustion en remblai routier ou remblai de carrière en fin de vie, et donc nous sommes au travail sur ces sujets. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à court terme, ceci représente un coût. Nous l'avons, par prudence, considéré comme un coût 2013-2016. À moyen terme, nous considérons que ces produits seront valorisables, en particulier dans le monde routier. Et à moyen terme, l'enjeu sera de faire reconnaître ces coûts dans le cadre, à nouveau, d'avenants de nos contrats pour faire reconnaître l'impact sur nos équilibres économiques. De la même façon, la loi de finances 2013 a modifié la TGAP et a triplé les taxes sur les émissions gazeuses, oxyde de soufre et poussières en suspension. Ce gonflement de ces taxes a un impact sur nos coûts, vous le verrez à nouveau tout à l'heure dans les chiffres, et en même temps sera l'objet, en son temps, de demandes d'avenants sur nos tarifs auprès de EDF. Donc là, il s'agit, sur l'ensemble de ce slide, d'éléments nouveaux correspondant à des normes. C'est du même ordre que ce que nous avions connu dans le passé et qui a fait l'objet de compensations tarifaires. Et là, il s'agit d'éléments qui devront être compensés à moyen terme, et on en reparlera le moment venu. Si je regarde l'impact maintenant, à la fois des bonnes nouvelles qui sont les augmentations de tarifs dont j'ai parlé tout à l'heure et les éléments liés à ces sous-produits de combustion et à la TGAP. Bien, vous regardez sur le slide qui est devant vous et vous voyez que nous avons voulu séparer ce qui était rétroactif, en gros les trois années passées, et ce qui est récurrent. Donc si je regarde d'abord le haut du tableau et le rétroactif, vous voyez qu'on avait eu une petite compensation tarifaire mineure en 2012 de 3 millions. Cette année, en EBITDA, c'est très important. Et en impact net, nous sommes à hauteur de 13,6 millions, ce qui est tout à fait important et qui correspond, comme je vous l'ai dit, à peu près à 3 ans de rétroactivité. Si maintenant je regarde le récurrent, vous voyez que ce que nous avons obtenu en augmentation de tarifs récurrentes sur les points qui ont été évoqués pour l'année 2013, nous sommes à un impact EBITDA de plus 7 ou plus 8 millions. Par ailleurs, les surcoûts logistiques et environnementaux liés à ces normes SPC et TGAP que j'ai évoquées sont de l'ordre de 4 à 5 millions. Donc, l'impact positif récurrent sur notre EBITDA est de 2 à 3 millions d'une part. Et puis, dans quelques années, nous reviendrons auprès de EDF et de la CRE pour faire valoir notre droit à obtenir des compensations tarifaires sur les sous-produits de combustion, et donc à nouveau nous aurons du rétroactif et du récurrent le moment venu. Voilà les éléments importants que je voulais évoquer quant aux exploitations de notre périmètre existant. Je voudrais maintenant regarder les éléments liés aux nouveaux projets et à la croissance. Deux points importants. D'une part, vous allez voir que nous avons des projets importants et substantiels qui sont en train de se matérialiser. Et d'autre part, vous verrez que ces projets sont pour l'essentiel, ou même à 100%, liés à de la biomasse, ce qui est complètement conforme à la stratégie que nous avions fixée au début de l'année 2012. Regardons d'abord les éléments liés au contrat CCG2. Vous vous rappelez qu'à la Martinique, nous avons ce projet Galion 2, projet de 38 MW, qui était initialement un projet bagasse charbon, que nous avons transformé en un projet bagasse bois. Nous sommes en fin d'enquête publique pour obtenir les différents permis sur ce projet. Nous sommes en cours de négociation des tarifs avec EDF pour répercuter le surcoût lié au passage du charbon au bois. Et notre ambition est toujours de démarrer cette installation à la fin de l'année 2015 pour être au rendez-vous de la première campagne de coupe de la canne à sucre et campagne sucrière de début 2016. Point nouveau dont je ne vous ai pas parlé depuis 2 ans que nous nous connaissons, Marie-Galante. Alors il s'agit d'un vieux projet dont certains d'entre vous se souviendront. Projet qui était bloqué depuis très longtemps parce qu'il n'était pas accepté par les responsables politiques et la population de Marie-Galante. Il s'agissait à l'époque d'un projet bagasse charbon, et le charbon aujourd'hui est de moins en moins accepté pour les nouveaux projets dans les îles que nous servons, et donc il y avait un blocage. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que ce blocage est levé. Nous avons pu transformer notre projet historique bagasse charbon en un projet bagasse bois. Nous allons profiter de l'approvisionnement de Galion en Martinique de bois qui viendra soit du Brésil, soit d'Amérique du Nord. Et cet approvisionnement s'arrêtera en route à Marie-Galante pour approvisionner notre projet en bois. Et donc nous avons pu transformer notre projet en un projet qui est maintenant un projet bagasse bois. Aujourd'hui, je considère que les feux sont ouverts sur ce projet, et donc je suis en mesure de vous le présenter. Vous vous souviendrez que je vous avais dit, et c'était un peu un accord entre nous, que nous ne vous parlerions que des projets pour lesquels les feux étaient ouverts. Eh bien aujourd'hui, Marie-Galante est un projet de taille moyenne, 13 MW, pour lequel les feux sont ouverts. L'accord politique existe, mais nous sommes maintenant au travail pour faire sortir ce projet, qui sortira probablement avec un décalage de l'ordre de un an et demi, 2 ans, je ne sais pas encore exactement, avec Galion 2, dans la mesure où maintenant que l'accord politique est trouvé, nous nous mettons au travail pour obtenir les permis, lancer les enquêtes publiques, et vous savez que ce sont des process longs. Deuxième grande famille, les projets de méthanisation, de biométhanisation. Nous avons communiqué sur la mise en service de Tiper, notre première usine de méthanisation dans les Deux-Sèvres à Thouars, avec 2 MW installés. Nous sommes dans la phase de montée en puissance de l'installation. Les bactéries font leur travail, sont en train de se développer, de grandir sur le substrat, et nous pensons être à un régime de production à plein au 4e trimestre. Ce projet est la première réalisation de ce projet Méthanéo que nous avions initié au premier semestre 2012. Nous avons un deuxième projet Capter en cours de construction à côté de Thouars, à nouveau à Saint-Varan, 0,5 MW, et nous avons 4 projets prévus pour mise en service en 2014. Un des 4 projets est en construction et nous sommes très avancés sur les 3 autres. Donc le projet Méthanéo est un projet qui avance bien. C'est un projet avec une granulométrie qui est différente de celle de nos gros projets de biomasse thermique, puisque nous sommes à 1 MW, 1,5 MW en moyenne de capacité de production. Mais les marges d'escalier de notre petit escalier vert que vous connaissez se mettent en place avec les projets de méthanisation. Troisième grand sujet, le sujet Brésil, pour lequel vous connaissez maintenant l'ambition que nous avons annoncée au début de cette année. Nous avons créé l'entité brésilienne qui va être la holding de tête de nos investissements qui s'appelle Albioma Participação S do Brasil, qui est en place maintenant. L'équipe est sur place au travail et nous sommes en discussion active avec plusieurs partenaires sucriers. pour l'achat de leurs usines de cogénération existantes. Et vous vous souvenez qu'on a bien décidé de se focaliser sur des usines brownfield que nous allons améliorer et dont nous allons transformer la performance énergétique pour l'amener à des niveaux proches de celles de nos usines habituelles. Donc le projet Brésil se déroule en ligne avec notre plan de marche et nous sommes aujourd'hui très confiants quant à notre avenir dans ce pays, qui est notre priorité à l'international. Voilà ce que je voulais vous dire pour la croissance, donc du 100% biomasse et des projets qui sont en train d'avancer comme nous le souhaitions. Un point maintenant sur notre relation avec nos actionnaires, avec deux alinéas que je souhaite signaler. D'une part, nous avons, lors de l'Assemblée générale des actionnaires, nous avons obtenu l'accord de l'Assemblée générale pour mettre en place un programme de fidélisation des actionnaires avec un dividende majoré et dividende majoré de 10% pour les actionnaires qui seront actionnaires inscrits au nominatif pour une période continue d'au moins 2 ans. Nous sommes très attentifs à nos petits actionnaires fidèles. Nous souhaitons les remercier pour leur fidélité. Et nous avons aujourd'hui une base d'actionnaires, Julien, de combien de petits actionnaires?
Plus de 18 000.
Plus de 18 000, et nous sommes très attentifs à les remercier de leur fidélité. Deuxième point important, qui est d'ailleurs du même ordre, vous savez que nous avons proposé le paiement de notre dividende au titre de l'exercice 2012 pour 50%, soit en cash, soit en actions nouvelles. Et nous sommes très heureux de vous indiquer que 78% du capital, donc de l'ensemble des actions de notre entreprise, ont choisi le paiement en actions, ce qui est le signe d'une grande confiance dans notre modèle et dans nos perspectives de croissance, ce qui se traduit par la création de 535 454 actions nouvelles, et ce qui aussi se traduit par à peu près 6,5 millions d'euros de liquidités qui sont restés dans l'entreprise et qui nous permettront de financer le plan de croissance ambitieux que vous connaissez. Voilà, mesdames, messieurs, les éléments qualitatifs que je voulais vous signaler. Et maintenant, je passe la parole à Julien qui va vous présenter les résultats financiers.
Bonjour à tous. Les chiffres qui vont vous être présentés sont retraités de l'activité éolienne qui, je vous le rappelle, que l'on a cédé, je vous le rappelle, en février 2013. Pour ce qui concerne le chiffre d'affaires sur le semestre est stable comparé au premier semestre 2012, en dépit d'une baisse du prix du charbon, je vais y revenir. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2012 comprenait 3 millions de rétroactivité liées à l'avenant 2012 que Jacques Pétry a mentionné précédemment. Au premier semestre 2013, compte tenu du caractère significatif des montants de rétroactivité liés aux avenants 2013, il a été convenu avec nos commissaires aux comptes de faire figurer ces éléments dans autres produits opérationnels, donc dans le résultat non courant et non pas dans le chiffre d'affaires, qui crée, en termes de lecture de chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'on a indiqué que sur les 186,5 publiés de l'année dernière, il y avait 3 de rétroactivité. Donc les principaux éléments de variation du chiffre d'affaires sont les 3,5 millions liés à l'augmentation des primes fixes suite à la signature des avenants EDF au premier semestre 2013. Un autre élément, un des principaux éléments de variation sont les 9,1 d'évolution positive sur CCG, il y a un très bon taux d'appel sur le semestre. On est à 37% en moyenne au premier semestre 2013, à comparer à 22% sur le premier semestre 2012. En effet négatif, on a deux principaux effets. Le premier, c'est le moins 3,6 millions, c'est un effet volume thermique. On a un petit peu moins produit que l'année dernière. Et le deuxième, et c'est le plus important, c'est l'effet prix des matières premières de 8,3 millions. L'année dernière, à la même période, le cours du charbon était à 105 euros la tonne en moyenne. Cette année, il est à 88 euros la tonne. Donc, il y a un effet important sur le chiffre d'affaires. Et vous verrez qu'on ne retrouve évidemment pas cet effet au niveau de l'EBITDA et du RNPG compte tenu des clauses d'indexation de nos contrats en ce qui concerne les matières premières. Je vous propose de passer à la page suivante sur l'EBITDA. Nous avons un EBITDA en forte augmentation de 62,3 millions au 30 juin 2012 à 74,6 millions au 30 juin 2013, ce qui représente une croissance de 20%. Retraiter des éléments de rétroactivité et autres charges exceptionnelles de 3 millions en 2012 et de 13,6 millions au premier semestre 2013, c'est les chiffres que vous a indiqué Jacques dans son tableau introductif, soit une variation au niveau de la rétroactivité de 10,6 entre les deux semestres, on a un EBITDA courant qui passe de 59,3 millions à 61 millions, soit une croissance de 3%. Cette croissance s'explique par, on retrouve les mêmes explications en partie, hein, 3,5 millions liés aux avenants EDF, un impact positif du taux d'appel CCG pour 1,9 million, et un impact négatif qu'on n'avait pas, qui est nouveau, Jacques Pétry l'a mentionné, qui est lié aux sous-produits de combustion, donc un impact négatif de 2,7 millions. Je propose maintenant de vous commenter le RNPG, page 19. Le RNPG est en très forte progression de 16,6 millions à 28,2 millions, soit une croissance de 20%. Ce RNPG de 28,2 millions sur le premier semestre 2013 intègre à la fois les effets liés à la rétroactivité et autres charges exceptionnelles et c'est important, la plus-value de cession de l'éolien pour 5,6 millions. Or, ces éléments, le RNPG passe de 14,9 millions à 16,3 millions, soit une croissance à capacité équivalente de 9%. Quelques compléments d'information par rapport aux évolutions que j'ai commentées sur l'EBITDA. Autre effet positif qu'on n'a évidemment pas au niveau de l'EBITDA est lié aux résultats financiers. On a une évolution positive de 1,4 liée à notre désendettement, je vais en parler dans quelques minutes, et à la baisse des taux d'intérêt sur la période. Et dans les rétroactivités et autres charges, il y a des provisions pour 2,5 millions qui ont été passées pour des risques fiscaux. Je vous propose de vous commenter notre structure financière qui, au 30 juin 2013, compte tenu du désendettement significatif, est extrêmement solide. On a généré sur le semestre 54,6 millions de free cash flow. Et ceci avant l'encaissement de tout ce qui est lié à la rétroactivité issue des avenants signés entre le début d'année et juin 2013. La dette nette, et vous le voyez sur le petit graphe de la partie droite de la page, a significativement baissé puisqu'elle est passée au 30 juin 2012 de 545 à 443 au 30 juin 2013. On a une évolution très positive de notre levier. Quand je dis levier, je veux parler de endettement net sur EBITDA, qui est passé de 4,1 à 3,2. Quelques mots sur notre dette nette. Pour mémoire, et vous savez qu'elle est composée de toute la partie dette financement sans recours projet, en brut, elle est de 482 millions au 30 juin, et d'une dette corporate qui est de 54 millions. Le taux d'intérêt moyen au 30 juin 2013 est de 4,1%. Et 77% de nos dettes est couverte. Pour finir sur cette partie bilancielle et trésorerie, nous avons à notre bilan 81 millions de trésorerie, auxquels il faut rajouter 17 millions de dépôts de garantie, qui sont entre guillemets du cash trap. Et nous avons également à notre disposition 43,5 millions de lignes corporate non tirées disponibles. Les pages suivantes sont le détail des comptes de résultats et des cash flows que je viens de commenter. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question plus précise et je vous propose de redonner la parole à Jacques pour la conclusion et les objectifs.
Merci Julien. Donc comme vous le voyez, la performance opérationnelle du premier semestre est bonne, même très bonne. Nous avons à la fois des installations techniques qui fonctionnent bien, nous avons des équipes de qualité qui sont au travail. Et nous avons des contrats solides et qui résistent aux différents événements extérieurs et qui sont capables de répercuter assez rapidement les évolutions de nos coûts quand elles interviennent à cause d'éléments de type réglementaire ou normatif. Nos projets de croissance progressent et en cohérence avec la stratégie 100% biomasse, nous avons l'ambition, donc, dès l'année 2014, de revenir à ce rythme moyen de 100 millions d'euros de CAPEX de développement par an, de CAPEX par an, qui est ce rythme autofinancé que nous avons présenté lors de la réunion SFAF du début de l'année. Nous confirmons nos objectifs pour les années 2013 et 2016, après les avoir revus deux fois à la hausse depuis le début de l'année, donc une fois à l'occasion de ces signatures d'avenants EDF. Ces objectifs sont se comprennent hors Bonne Nouvelle Brésil et hors Marie-Galante, qui n'est pas aujourd'hui dans le plan, et donc se comprennent sur la base de notre périmètre existant, augmenté du seul projet de Galion 2 avec une mise en service fin 2015. Et donc vous voyez pour 2013 un objectif auréolien, et d'ailleurs ça vaut pour l'ensemble des chiffres, en EBITDA de 127 millions et de RNPG de 36,5 millions plus les 5,6 millions de plus-value de l'éolien. Et pour ce qui concerne 2016, 160 à 163 pour l'EBITDA, 40 à 42 pour le RNPG. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, notre premier semestre est bon, correspond bien aux mots-clés que nous évoquons à chaque fois devant vous concernant notre modèle, à la fois des cash flows très solides, et ça a été illustré par l'évolution de la dette nette que Julien vous a présenté, à la fois de la croissance, notre positionnement unique sur cette biomasse, et en particulier la bagasse, et l'émergence de projets nouveaux au Brésil, Marie-Galante, illustre que nous sommes sur un segment du monde de l'énergie en croissance, et la rentabilité. Vous avez vu l'évolution de notre RNPG déjà au cours de l'année 2012 et maintenant pour le premier semestre 2013, et vous voyez que nous sommes sur une tendance vertueuse d'évolution de notre rentabilité. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous souhaitions vous dire. Et maintenant, nous sommes très heureux avec Julien et d'ailleurs d'autres membres de la direction générale à mes côtés de répondre à vos questions si vous le souhaitez. Je repasse la parole à l'opérateur qui va guider cette session de questions-réponses.
Merci, monsieur Pietri. La séance de questions-réponses sera conduite électroniquement. Si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Si vous utilisez un téléphone équipé d'une touche mise en silence, veuillez vous assurer que cette fonction n'est pas activée afin que votre signal soit perçu par notre équipement. Si votre question a déjà été posée et vous souhaitez vous retirer de la liste d'attente, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 2. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Nous allons attendre quelques instants afin de donner à tous l'opportunité de signaler une question. Nous allons maintenant prendre la première question de Félix Ourpatian de Natixis. C'est à vous.
Bonsoir Monsieur Pietri, bonsoir Monsieur Gauthier. J'ai quatre questions, deux plutôt stratégiques et deux plutôt financières, donc comme ça tout le monde sera content. La première concerne le projet de Marie-Galante. Est-ce qu'on peut avoir, on va dire, donc effectivement projet assez ancien que vous relancez, ça c'est une très bonne nouvelle sous forme différente. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de ce projet, puisque le changement de fuel va faire que c'est un projet qui sera avec un coût un peu supérieur probablement à ce qu'il était au départ, et est-ce qu'on peut avoir une idée du timing idéal pour vous de mise en service? Ça c'est la première question. La deuxième question sur le Brésil, visiblement les choses avancent assez vite, je pense que elles avancent même peut-être plus vite que ce qu'on pouvait s'attendre. Est-ce qu'on pourrait avoir là aussi une petite idée de la vitesse avec laquelle les événements pourraient, entre guillemets, se précipiter? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose sur 2013 sur le Brésil? Et puis j'ai deux questions financières, alors plus des questions de détail d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait avoir la ventilation de l'EBITDA récurrent entre thermique et solaire? Vous aviez plutôt l'habitude de le donner dans les résultats annuels, donc si on pouvait avoir aussi cette répartition. Et idem, le montant de votre cash flow et de vos investissements, s'il vous plaît.
Alors, pour ce qui concerne Marie-Galante, je ne vais pas vous donner de coûts aujourd'hui. Je considère que c'est un peu tôt pour vous donner des chiffres. En fait, nous sommes... Vous avez des chiffres pour Galion 2. Galion 2, qui est une beaucoup plus grosse usine, et donc qui va coûter au mégawatt installé un peu moins cher que Marie-Galante. Donc vous pouvez faire des règles de 3, mais c'est à titre purement indicatif à ce stade. Ensuite, nous devons travailler sur le pourcentage de détention de Marie-Galante, et ceci est aussi un point de discussion avec les partenaires locaux, etc. Donc à ce stade, je crois qu'on peut dire que c'est une marche d'escalier à venir sur notre escalier vert. Je crois qu'on peut se dire, et je l'ai évoqué, que la mise en service interviendra 1 à 2 ans plus tard que Galion 2, parce qu'il y a tout le travail de permitting qui est fait sur Galion, qui n'est pas encore fait sur Marie-Galante. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'une mise en service pour ce qui concerne Galion 2 fin 2015. Un an et demi après, 2 ans après, ça peut être Marie-Galante. Soyons prudents, c'est une petite île assez complexe. Donc il va falloir travailler, mais la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est effectivement le fait qu'il y a un accord politique. D'ailleurs, les politiques ont communiqué localement sur le sujet. Pour ce qui concerne le Brésil, le travail est fait de façon méthodique, prudente. Je pense qu'il est très important de privilégier la qualité du travail d'acquisition. Et donc, nous ne sommes pas pressés. Vous avez évoqué le mot précipité. On n'a vraiment pas envie de se précipiter. On veut faire les choses bien. Donc, je ne vais pas vous donner de date. Je ne vais pas vous dire c'est 2013-2014. Ce sera dès que possible et de façon à livrer une acquisition ou des acquisitions de bonne qualité. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes au travail aujourd'hui en discussion active avec plusieurs acteurs, ce qui est l'illustration du fait qu'il y a un marché avec une vraie profondeur de marché. Dans les DOM aujourd'hui, nous avons un sucrier en face de nous dans chacune des îles. Là, nous avons de nombreux sucriers. Donc, nous avons un dialogue commercial fourni. Et dès que j'aurai une nouvelle à partager avec le marché, croyez-moi, je le ferai. D'ailleurs, ça ne cadrera pas avec une date de présentation de compte semestriel ou annuel. Ça viendra le jour où ce sera prêt. Et je le ferai évidemment dès que possible avec le marché. Voilà pour les deux éléments liés au développement. Je passe la parole à Julien pour les chiffres.
Pour ce qui concerne les questions financières, pour l'EBITDA et la répartition entre le photovoltaïque et le thermique, sur le semestre, le photovoltaïque représente un EBITDA de 15,1 millions. La biomasse thermique, l'activité biomasse thermique a enregistré un EBITDA de 62,7 millions, y compris les éléments de rétroactivité qu'on a mentionnés. En ce qui concerne la question sur les investissements sur le trimestre, sur le semestre, pardon, ont représenté 13 millions, dont 3,8 millions de capex de maintenance, en ligne avec le premier semestre de l'année dernière, et 9,2 millions de capex de développement.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur Opatian. Question suivante.
La question suivante nous est posée par Jean-François Grandjean d'Odo Security. C'est à vous.
Oui, bonsoir monsieur. Première question, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de la répartition du chiffre d'affaires par division, biomasse thermique, solaire, holding? Vous l'avez donné pour le premier trimestre, on ne l'a pas pour le deuxième trimestre, donc pour le premier semestre par définition, est-ce qu'on peut avoir cette répartition-là? Deuxième question, alors vous avez donné les éléments d'explication de la variation du chiffre d'affaires d'un semestre à l'autre. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'explication entre le décalage entre le premier trimestre et le deuxième trimestre? On avait une progression de 7% sur le premier trimestre, donc a priori une forte baisse sur la deuxième partie de l'année. Est-ce que c'est plutôt l'effet matière première qui a joué sur la deuxième partie du semestre? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails par rapport à ça? D'autre part, alors si j'ai bien compris, ce 13,6 millions, c'est quelque chose qui est absolument non récurrent. Est-ce que c'est un élément que vous aviez déjà intégré dans la guidance que vous aviez avancée de 123 puis 127 millions d'euros? Parce que sinon, je suis un petit peu surpris de voir que vous ne modifiez pas votre estimation sur l'ensemble de l'année. Donc, est-ce que, en fait, vous avez déjà intégré ces éléments non récurrents et relativement conséquents? Et puis, j'aurais une dernière question. Vous avez effectivement fait état d'une baisse des primes fixes en 2014 et 2018. Donc, en fait, pour 2014, donc c'est bientôt moins 5 millions d'euros pour les EBITDA. Voilà. Est-ce qu'on doit se montrer assez prudent sur nos estimations de croissance des EBITDA 2014, dans la mesure où il n'y aura pas de pléthore de nouveaux projets qui vont arriver, et à contrario, on aura plus ces primes fixes l'année prochaine, donc on aura un petit décalage. Donc, est-ce que vous pouvez donner un petit peu de couleur sur les tendances résultats pour 2014? Merci.
Alors, je vais passer la parole à Julien, mais deux commentaires. Le premier, c'est que on donne le chiffre d'affaires tous les 6 mois ou tous les trimestres parce qu'il faut le faire, mais on considère que le paramètre chiffre d'affaires n'est pas un paramètre très illustratif de la qualité de notre exploitation. Comme il y a un gros élément lié à l'achat de charbon, combustible de façon plus générale, et que pour l'essentiel, ceci fait l'objet de clauses de pass-through, et que donc l'intégralité de la variation ou la quasi-intégralité de la variation du prix du charbon est absorbée par EDF, nous considérons que c'est un indicateur d'un intérêt moins fort que celui de l'EBITDA ou du résultat net. Et Julien va vous donner un peu plus de détails maintenant. Et deuxièmement, pour ce qui concerne 2014 et les baisses de primes fixes. D'abord, les baisses de primes fixes sont publiques et sont publiées dans notre DDR depuis toujours, et donc c'est de l'information qui est disponible depuis toujours. Simplement, on a rappelé, puisqu'on décrivait les mécanismes d'évolution tarifaire, on a rappelé les événements importants de nos contrats dans les années prochaines. Oui, il y a une baisse de prime fixe en 2014 sur CTM. Oui, elle est connue depuis toujours. Et aujourd'hui, et je vais probablement vous décevoir, je ne vous donnerai pas d'objectifs pour 2014. Nous ne communiquons pas aujourd'hui sur les objectifs de l'année prochaine. Ceci viendra en son temps. Vous connaissez notre fonds de commerce, vous connaissez l'escalier vert, et donc voilà, vous connaissez l'essentiel aujourd'hui. Nous communiquerons sur la guidance des objectifs 2014 comme nous le faisons chaque année en début d'année 2014.
Voilà. Alors, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, sur le premier semestre, l'activité biomasse thermique a représenté 162,9 millions d'euros. Le photovoltaïque, 19,4 millions d'euros. Ça, c'est pour la ventilation. Pour l'évolution du second trimestre par rapport au premier, deux, trois éléments d'indication. Le premier, c'est que effectivement, l'évolution du prix du charbon a été défavorable, y compris au deuxième trimestre. Et le deuxième, c'est un élément important que j'ai mentionné pendant la présentation, tous les éléments de rétroactivité CTM et CTBR-CTG et l'accord CTBR-CTG date de juin de cette année, ont été traités non plus en chiffre d'affaires comme c'était le cas pour l'avenant 2012 et les chiffres présentés au premier trimestre, mais en autres produits opérationnels qui sont du résultat non courant, en accord avec nos commissaires aux comptes pour une meilleure lisibilité de nos résultats.
D'accord, très bien.
D'autres questions?
Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Merci. Nous allons maintenant prendre une question de Charles-Louis Planade d'Arkéon Finance. C'est à vous.
Oui, bonsoir messieurs. Juste une petite question pour moi. C'est une précision sur la partie prix du charbon. Je voulais savoir, avec les prix du charbon qui ont descendu sur le premier semestre et l'effet d'aubaine des aubaines qu'on constatait habituellement dans vos comptes, comment on fait pour avoir une variation de stock positive, légèrement positive sur ce semestre? Et est-ce qu'on doit s'attendre à un effet des aubaines justement sur le second?
Alors, oui, il y a une variation de 0,1 puisque l'année dernière on avait un effet stock négatif. Dans les deux cas, que ce soit au premier semestre 2012 ou au premier semestre 2013, on a un effet stock négatif. Il se trouve que l'année dernière, il était de 0,6 de 600 euros et de cette année, il est de 0,5, ce qui fait bien une variation positive de 0,1. L'effet stock est lié à la pente du prix du charbon. Il traduit pas la variation au niveau du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Si, ok, d'accord. Donc en fait, c'est juste que la pente est moins forte, entre guillemets, que ce qu'elle avait pu être sur le S1 de l'année précédente.
D'accord. Exactement.
Ok, très bien, merci.
D'autres questions?
Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Nous allons maintenant prendre une question de Françoise Delva de Gilbert Dupont. C'est à vous.
Oui, bonsoir messieurs. Je voulais revenir un petit peu sur la guidance annuelle et parce qu'en fait quand on regarde, si on reste sur ces 127 millions, ça implique une baisse quand même de l'EBITDA au S2. Donc je sais bien quels sont les coûts enfin que vous attendez finalement sur ce deuxième semestre qui expliquerait cette baisse un peu d'EBITDA. Ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est sur l'enveloppe globale d'investissement sur l'année. Vous pouvez nous redonner un petit peu le montant global sur lequel il faut s'attendre sur l'ensemble de l'année. Merci.
Alors, pour ce qui concerne les vidéas de 2013, donc les 127 millions, ils correspondent effectivement à une tendance. Si vous faites les calculs au prorata de ce qui avait été l'an dernier, vous retrouverez à peu près les mêmes répartitions entre premier et deuxième semestre. Et vous savez par ailleurs que nous avons une tradition de prudence. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous vous avons donné un chiffre qui nous paraît refléter des prévisions prudentes. Par ailleurs, pour ce qui concerne les CAPEX, nous avons annoncé une ambition de CAPEX pour cette année de 70 millions. Une part très importante de ces CAPEX viendra de la commande que nous passerons des travaux concernant Galion 2, CCG 2 en Martinique. Tant que le permitting n'est pas achevé et tant que nous n'avons pas complètement terminé le travail avec EDF pour le tarif, bien nous ne passons pas commande et nous passerons commande immédiatement après. Alors après c'est une question de débours sur cette année ou sur l'année prochaine, mais clairement notre enjeu c'est de passer commande au dernier trimestre de cette année.
Merci.
Est-ce que je réponds à votre question?
Oui, merci.
Merci madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Nous allons maintenant passer à Muriel André de HSBC, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Je voudrais juste revenir sur une question. Je ne sais pas si vous avez vraiment répondu sur l'objectif de 127 millions d'euros d'EBITDA. Est-ce que ça intègre les 13 millions d'effets rétroactifs ou pas?
Oui, madame.
D'accord. Merci. Et est-ce que vous pouvez juste nous donner le chiffre d'affaires du T1 en hors impact des avenants, puisque pour avoir la même base de comparaison T1, T2?
Ce que je vous propose, je vous enverrai un mail avec le chiffre exact, je suis pas sûr de l'avoir là sous les yeux.
D'accord, très bien, merci.
Est-ce qu'il y a encore une question?
Nous avons une nouvelle question de Charles-Louis Planade de Archéon Finance, c'est à vous.
Oui, excusez-moi monsieur, une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les primes qui étaient liées au taux de disponibilité sur l'exercice passé et savoir un commentaire qualitatif sur votre capacité à les toucher cette année au regard du taux de disponibilité qu'on a eu sur le premier semestre?
Alors, d'abord, nous ne donnons pas d'informations détaillées sur les primes ou les boni et mali que vous évoquez, dans la mesure où il s'agit d'informations concurrentielles, et nous ne les communiquons pas. Deuxièmement, nous communiquons de façon globale sur les écarts d'une année sur l'autre, avec les effets bonus et malus que vous voyez là. Pour ce qui concerne ce premier semestre, je vous ai dit qu'il était bon. Il faut être évidemment prudent parce que nous vous dirons si l'année a été bonne le dernier jour de l'année. On parle à la fois de maintenance programmée, mais aussi de casse sur les installations, donc on ne sait jamais. Mais ce que je sais, c'est que l'année dernière, avec un premier semestre du même niveau que celui de cette année, nous avons fini l'année avec une très jolie disponibilité de 91,9. Et donc notre ambition, c'est d'être à l'intérieur de cette fourchette, le plus haut possible, à l'intérieur du 90-92, qui est notre objectif tel qu'on vous l'a indiqué. Et donc aujourd'hui, l'année est bien partie. On verra à la fin de l'année où on en sera, mais on est optimiste et toutes les équipes travaillent pour livrer une disponibilité la plus haute possible.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Nous avons maintenant une question de Emmanuel Chevalier de CIC. C'est à vous.
Allô.
Oui, monsieur
oui.
Chevalier.
Oui, bonsoir monsieur. Je m'excuse de revenir sur ce sujet, mais je voulais juste comprendre en fait comment vous avez relevé la guidance de 124 à 127 en prenant en compte la rétroactivité qui représente un montant assez important. On a eu quelques indications négatives sur des coûts supplémentaires, mais je voulais savoir un peu comment vous aviez construit ce passage de 124 à 127 en prenant en compte les 13,6 millions d'euros. C'est ma première question.
Merci.
Et ma deuxième question, c'est juste pour revenir sur Marie Galante. Il me semblait qu'avec la double insularité, par rapport où vous avez parlé de règle 3 en approximation sur ce, par rapport à CCG2, il me semblait qu'en fait c'était vraiment le coût au mégawatt était largement supérieur. Je voulais juste avoir confirmation que vous reveniez exactement sur les mêmes critères de retour sur capital employé et les mêmes critères de TRI, même si l'investissement sera supérieur au mégawatt, mais qu'on aura exactement la même génération de cash finalement, que l'électricité produite sur Marie Galante sera vendue beaucoup plus cher que sur les autres territoires.
Donc je réponds à votre deuxième question et Julien va répondre à votre question sur l'EBITDA. Bon, pour Marie Galante, d'abord, l'installation est plus petite, donc le million d'euros par mégawatt va être un peu plus élevé que ce que nous avons à Galion 2. Deuxièmement, il y a un câble à payer entre Marie Galante et la Guadeloupe, et donc ce câble va renchérir le projet, et nous rentrons dans un projet qui va relever de la même rémunération des capitaux engagés, de 11% des capitaux engagés, comme c'est le cas sur l'ensemble de nos projets. Donc on va avoir la même rentabilité. Ce que je vous ai dit simplement, c'est que probablement nous aurions un tour de table à mettre en place autour de ce projet, et donc nous aurons une part du capital qui reste à déterminer aujourd'hui. Mais pour le reste de l'évaluation et de la rentabilité des capitaux engagés et du montant de l'investissement, bien vous avez en gros les éléments pour avancer. Dès que j'aurai des chiffres plus forts et plus précis, je reviendrai vers vous.
Okay.
Est-ce que sur Marie Galante, j'ai répondu à votre
très
question.
Très clair, merci.
Julien.
Bon, pour répondre à la question sur la guidance, sur l'EBITDA, il y a une partie de l'exceptionnel, là, des 13,6 qu'on vous a indiqué sur le premier semestre, une petite partie qui sera consommée sur le second semestre. On a prévu en particulier, on va avoir des frais complémentaires liés au déménagement. La société a décidé, compte tenu de ses projets de développement et de déménager. Et d'autre part, et on le répète, on préfère rester prudent sur ce type de guidance et à ce stade, on juge pas nécessaire de la modifier.
Le déménagement, il vaut pas 10 millions d'euros.
J'ai dit une petite partie.
Oui, d'accord. Mais il y a beaucoup de prudence, hein.
Écoutez, c'est la marque de fabrique de la maison que de ne pas décevoir sur les chiffres. Nous sommes prudents, nous avançons et aujourd'hui on vous a donné tous les éléments du calcul à la fois de la partie récurrente et de la partie non récurrente et maintenant nous vous en dirons plus au fur et à mesure de l'avancement de l'année. Ce qui me paraît important dans la valorisation de l'entreprise, c'est de comprendre qu'effectivement nous avons progressé sur le récurrent, que ce soit au niveau du RNPG ou de l'EBITDA, et par ailleurs nous avons maintenant mis en place quelque chose qui ne va pas être annuel mais qui va être régulier, qui est cette rémunération rétroactive de charges qui reviendront sur le passé pour 3 ans. Donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place. On vous a donné des éléments assez détaillés maintenant pour comprendre ce modèle et nous allons le faire vivre ensemble année par année.
Ok. Oui.
Non, un dernier point, dans les guidances qu'on vous a communiquées, et la dernière guidance qui a été rehaussée, je vous rappelle qu'il y avait déjà tous les éléments qui concernaient notre centrale CTM. Hein. Et en particulier, tout ce qui concernait la rétroactivité de CTM.
D'accord, il y avait déjà, c'est une dépression, il y avait déjà une rétroactivité
exactement,
de CTM.
Exactement, donc,
d'accord, donc ça explique voilà. Pourquoi, parce qu'en fait, dans les 13.6, je ne sais pas exactement quelle est la répartition entre CTM et le reste, on avait déjà une partie de la rétroactivité qui était dans la précédente guidance.
Absolument.
D'accord, c'est bien. Ça explique. On peut avoir le. Oui, ça c'est.
Par ailleurs, on attendait les résultats du premier semestre pour vous donner tout le détail de ces rétroactivités. C'est assez complexe et nous étions en négociation à la réunion et nous ne voulions pas, en cours de négociation sur la réunion, vous donner des éléments qui avaient concerné la Guadeloupe CTM. Donc maintenant que tout ce premier exercice est terminé, nous sommes en mesure de vous faire une présentation globale. C'est pour ça qu'on a attendu jusqu'à aujourd'hui pour vous présenter tout ceci. C'est en plus assez complexe, il faut être un peu pédagogue et nous espérons l'avoir été pour expliquer tout ça.
D'accord. Et non, ça explique beaucoup mieux en fait parce qu'il y avait ce décalage. Donc et CTM par rapport à CTG et CTBR, c'est en masse, c'est moitié-moitié, un tiers, deux tiers, c'est plus. On peut faire une approximation, une règle de 3, pour le coup, par au nombre de mégawatts.
Non, il ne faut pas faire ça, parce qu'en plus, CTM, il y avait une problématique de crédit bail fiscal, tout ça est compliqué.
D'accord.
Je crois qu'on vous en a donné beaucoup, et je crois qu'il faut s'en tenir là aujourd'hui, si vous voulez.
Ok, merci.
D'autres questions?
Monsieur Petri, nous n'avons plus de questions.
Très bien. Mais écoutez, mesdames, messieurs, merci pour votre présence et vos questions. Et nous vous disons à très bientôt. Et pour ceux qui prennent des vacances, de très bonnes vacances. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, ceci conclut donc la conférence d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez maintenant vous déconnecter.